VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Campagne électorale aux États-Unis, première conséquence politique aujourd'hui des caucus de l'Iowa, la première étape des primaires présidentielles américaines. Le candidat démocrate Martin O'Malley a suspendu sa campagne après ses résultats décevants hier soir au caucus. Côté républicain, l'ex-gouverneur de l'Arkansas Mike Huckabee en a fait de même. Rappelons que dans le camp républicain, le milliardaire Donald Trump a subi un net revers en finissant deuxième. Côté démocrate, les résultats non définitifs des caucus montrent jusqu'à présent un écart infime entre l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et son principal rival, le sénateur Bernie Sanders, qui ont tous deux crié victoire. Anna Dodson.
Appelés à choisir leur candidat pour l'élection du 8 novembre, qui désignera le successeur de Barack Obama, républicains et démocrates se sont rendus en nombre dans les bureaux de vote de ce petit État agricole du Midwest. Dans les deux camps, et dès la prochaine échéance du New Hampshire, le 9 février, la lutte s'annonce âpre. L'ultra-conservateur Ted Cruz, vainqueur lundi côté républicain, tentera de capitaliser sur ce bon départ. Hillary Clinton, favorite avant le caucus de l'Iowa, était quasiment à égalité avec le surprenant sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Les primaires du New Hampshire suivront donc la semaine prochaine, puis les autres États jusqu'en juin. Les candidats des deux partis seront désignés en juillet.
On passe maintenant à l'Afrique. Procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale de La Haye. La défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a affirmé aujourd'hui que l'ex-ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur des graves violences dont il est accusé devant la CPI. Charles Blé Goudé n'est pas un général de la rue, c'est un homme qui a essayé d'arrêter la violence, a martelé son avocat néerlandais Geert Jan Noops dans sa déclaration liminaire. Maître Claver Ndri, un autre avocat de l'accusé, a dit pour sa part que Charles Blé Goudé a tendu la main aux rebelles, à ceux-là même qui ont pris les armes contre la République. Toujours concernant la Cour pénale internationale, la CPI rendra le 21 mars son jugement dans le procès de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba, accusé des crimes commis en 2002 et 2003 par sa milice en Centrafrique. Il s'agira du premier jugement contre un ancien vice-président et du quatrième en tout rendu par la CPI depuis son entrée en fonction en 2003. Si l'accusé est reconnu coupable, la peine sera déterminée à un stade ultérieur. Un appel est également possible dans ce procès marqué par des accusations de subornation de témoins. Rappelons que quelques 1500 miliciens de Jean-Pierre Bemba s'étaient rendus en RCA en octobre 2002 pour soutenir le président Ange-Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État du général François Bozizé. Selon l'accusation, les miliciens de Bemba ont alors violé, tué et pillé la population civile. Retour sur le 26e sommet de l'Union africaine qui s'est terminé ce week-end à Addis Abeba. Les chefs d'État présents ont renoncé à envoyer une force de maintien de la paix au Burundi et ont choisi de privilégier la discussion avec Bujumbura. C'est une grande déception pour les Burundais opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement, ou FOCODE.
C'est une réaction d'indignation parce que cette organisation panafricaine a raté une occasion historique pour pouvoir mettre à son actif une réalisation sanitaire en refusant la mission pour la protection du Burundi Maprabou. L'organisation panafricaine a raté une occasion historique. D'un autre côté, on n'a pas été surpris parce que la plupart des chefs d'État ont refusé de créer un antécédent qui pourra aller poursuivre parce que certains sont hantés par l'esprit de dépasser les mandats, de violer les constitutions. Comme nous le disons, en plus, la décision qui a été prise est incompréhensible, voire inquiétante. Vouloir dire que pour secourir le peuple burundais qui est en train d'être tué, arrêté, exécuté, torturé, dire qu'ils doivent demander l'autorisation du bureau pour pouvoir secourir les citoyens burundais, c'est historique, c'est incompréhensible et ça dépasse toute logique.
Maintenant, quelle solution pour le Burundi, selon vous?
Pour le Burundi, je crois que et les Nations Unies et l'Union africaine, qui étaient des institutions internationales garantes de la sécurité dans le monde, comme elles se montrent très réticentes à pouvoir secourir le peuple burundais, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils assument la responsabilité de ce qui va arriver au peuple burundais. Il y a un génocide qui a commencé à petit feu. Tous les signaux montrent que si rien n'est fait d'un moment à l'autre, il peut y avoir un embrasement de tout le Burundi et aussi avec des conséquences au niveau de la sous-région et voire au niveau du monde entier. Dans ce cas, il faut que ces institutions
Est-ce qu'il n'y a pas de solution de discussion soit à Arusha ou bien à l'intérieur du Burundi?
Ce qui n'est pas concevable ou compréhensif, c'est que à la fois le pouvoir de Bujumbura refuse une force de protection des citoyens qui sont en train d'être tués par les forces de sécurité, et d'un autre côté, il refuse le dialogue qui est la seule solution incontournable pour pouvoir rétablir l'ordre dans le pays. Plus de 9 mois, il y a des déclarations, il y a des démissions, il y a des initiatives théoriques. Et je pense que le moment des initiatives théoriques était terminé, qu'il faudrait passer par des actions concrètes.
Gordien Nyongeko, secrétaire exécutif du Forum pour la conscience et le développement au FOCODE au Burundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, le bilan de l'attaque de samedi à Dalori, près de Maïdougouri, est révisé à la hausse. Les autorités parlent d'au moins 85 morts dans cette attaque attribuée aux djihadistes de Boko Haram. Eric Manirakiza.
D'une cinquantaine de morts, le bilan est passé à au moins 85 à Dalori, selon le docteur Haruna Mcheliya, commissaire à la santé pour l'État de Borno. Baluma Maloum, un rescapé, affirme avoir vu dans ce village au moins 20 cadavres tellement calcinés qui ne sont pas identifiables et que 15 villageois sont toujours portés disparus. Moussa Adamou, membre des milices d'autodéfense, a parlé de plus de 100 morts, mais ce chiffre n'a pas pu être vérifié. Le président Muhammadu Buhari doit se rendre mercredi à Strasbourg, s'adresser au Parlement européen. Il se rendra ensuite le lendemain à Londres pour assister à une conférence de donateurs pour la Syrie et plaider pour plus de soutien au Nigeria et aux autres pays en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Toujours concernant la lutte contre le djihadisme gris en Libye, l'ouverture d'un nouveau front sur place contre le groupe État islamique a été sérieusement envisagée par les États-Unis et leurs partenaires à la réunion d'une vingtaine de pays qui s'est tenue aujourd'hui à Rome, en Italie. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les efforts internationaux pour vaincre l'État islamique progressent dans la bonne direction, mais il estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour stabiliser la Libye et la Syrie. Pour leur part, les pays africains s'inquiètent de l'avancée de l'État islamique dans le sud libyen, ce qui est particulièrement dangereux pour le Niger et le Tchad, estime le chef de la mission de l'ONU en Libye, Martin Koble. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé aujourd'hui à Genève la création d'une unité de réponse globale au virus Zika, présent pour l'instant en Amérique du Sud, mais qui pourrait s'étendre rapidement à l'Afrique et à l'Asie. À l'issue d'une réunion exceptionnelle de son comité d'urgence hier, l'OMS a jugé qu'un lien existe entre ce virus transmis par un moustique et une hausse exceptionnelle des cas de microcéphalie, une malformation congénitale dont souffrent les enfants nés avec une petite tête. Plus de détails avec Fadela Chaib, porte-parole de l'OMS à Genève.
Ils se sont réunis par téléconférence. Ils ont décidé de déclarer que les désordres neurologiques et les malformations des enfants et des adultes est une préoccupation sanitaire de portée internationale, mais pas Zika. Zika est un virus qui ressemble à la dengue, au chikungunya et à la fièvre jaune et qui sévit dans beaucoup, beaucoup de pays depuis son apparition en 1947. Il ne constitue pas une préoccupation majeure de santé publique. Ce qui constitue une préoccupation majeure, c'est d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a un lien temporel et spatial entre le virus Zika et l'apparition de syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalée. La microcéphalée étant une maladie qui touche les enfants qui naissent avec des petites têtes. Est-ce qu'il y a un lien? Pour l'instant, scientifiquement, le lien entre Zika et la microcéphalée et les autres désordres neurologiques n'est pas prouvé, d'où l'importance de déclarer cela comme une urgence sanitaire de portée internationale afin d'expéditer les recherches et la mobilisation internationale pour essayer de voir est-ce qu'il y a un lien et s'il y a ce lien, comment en sortir.
Fadela Chaib, porte-parole de l'OMS à Genève. Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute, le Pentagone compte augmenter de 50% son budget pour combattre le groupe militant État islamique. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Washington le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.